J'ai fait un exemplier. Finalement, je préfère ça au PowerPoint parce que vous pouvez partir avec et continuer à lire les textes. En fait, je ne vais pas lire les citations, je vais citer quelques fragments, mais je n'aurai pas le temps de lire les citations. Donc, c'est important que vous ayez effectivement l'exemplier sous les yeux. Donc, de la présence modulée des mathématiques en littérature. Qu'il y ait des principes mathématiques à l'œuvre dans le texte littéraire, et d'ailleurs à un moindre degré dans les textes non littéraires également, n'a rien d'une révélation. Les nombres et les figures sont partout dans la poésie. Si nous commençons par les nombres, on compte dans un poème. Accent, syllabe dans le vers, vers dans la strophe, strophe dans le poème. Le nombre sert à établir une typologie des formes, et il arrive même souvent que le nom du nombre soit présent dans le nom des unités poétiques identifiées, comme il l'est dans le nom des polygones ou des polyèdres réguliers. Comme on a des triangles, pentagones, hexagones, heptagones, ou des trièdres, pentaèdres, hexaèdres, heptaèdres, on a, dans la catégorie des vers, des trimètres, pentamètres, hexamètres, heptamètres, dans la catégorie des strophes, des quatrains, des tercets, des distiques, dans celle des formes poétiques, des quintiles, des dizains et des sextines, qui doivent leur nom aux six mots rimes qui permutent dans six strophes de six vers suivis d'un tercet. Dans la réalisation singulière d'un poème appartenant à une forme répertoriée, le poète peut aussi introduire une variation dans une forme poétique en augmentant ou en diminuant le nombre de vers attendus. C'est ainsi que Robert Herrick, et vous avez le poème sur l'exemplier, un poète anglais du XVIIe siècle, en ajoutant deux vers et en scindant deux autres en deux, va transformer une ballade de 16 vers en une ballade de 20 vers. Et tout cela, pour une très bonne raison bien entendu, il s'agit d'un poème sur la fuite du temps, dans lequel le poète, à défaut de pouvoir ralentir le temps biologique ou historique, va ralentir au moyen de divers procédés, dont celui que je viens d'indiquer, le temps de lecture du poème. Il s'agit donc de « Two Daffodils ». Un autre exemple est fourni par Gerald Manley Hopkins, qui, dans la première strophe du poème « Spring », organise voyelles et consonnes en séquence de trois unités du même type, contiguës ou pas, des voyelles affectées du même trait distinctif d'une part, c'est-à-dire la tension par rapport au relâchement. Vous savez, par exemple, « when weeds in wheel shoot ». Donc, ce n'est pas la même voyelle, c'est le même trait distinctif sur certaines voyelles. Et puis des consonnes identiques d'autre part. Et pour compliquer un peu le jeu et pour rendre plus subtile la progression ternaire des voyelles et des consonnes, les séquences de traits distinctifs et de consonnes ne se produisent pas nécessairement sur la même syllabe ou le même mot. Vous avez par exemple, le « wa » se répète sur « when weeds wheels » et en revanche, le trait distinctif, c'est « weeds wheels shoot ». Donc, il décale, si vous voulez, légèrement les répétitions vocaliques et les répétitions consonantiques. Si l'on passe ensuite aux rapports et aux opérations qui les instaurent, on retrouve les mêmes opérations logiques que celles qui sont à l'œuvre dans les équations de l'algèbre, les figures de la géométrie ou les figures de rhétorique. Le rapport le plus fréquent est sans doute celui de symétrie, en distinguant deux grands types de symétrie. D'une part, la symétrie qui implique la répétition d'une ou de plusieurs unités dans un plan ou dans l'espace, laquelle se fait par translation, rotation ou dilatation, d'où sa dénomination parfois de symétrie de répétition. Et les objets qu'elle produit sont alors superposables. Deuxième type de symétrie, la symétrie en miroir ou symétrie axiale ou sagittale, verticale ou horizontale, dans un plan à deux dimensions ou un volume à trois dimensions, qui répète les unités en inversant la droite et la gauche ou le haut et le bas, et produit donc des objets non superposables. C'est la symétrie du corps humain, la plus intrigante et la plus fascinante des deux, car elle produit du même qui est aussi de l'autre. En physique, on étudie sous le nom de symétrie l'ensemble des transformations qui laissent invariantes d'abord les phénomènes, puis les lois de la physique. En mathématiques, la symétrie intervient dans les fonctions périodiques qui se reproduisent identiquement quand on translate d'un certain entier la variable. On retiendra que plus les espèces évoluent et plus elles s'éloignent de la symétrie simple, et ce qui caractérise le vivant, ce sont les brisures de symétrie. Les deux types de symétrie sont présents dans la poésie. Au titre de la symétrie par translation, on notera tout d'abord les répétitions phoniques, allitération, consonance et assonance. les répétitions prosodiques, rimes et rimes internes, syntaxiques, répétitions des syntagmes nominaux ou verbaux structurellement formés sur le même modèle, sémantiques par le jeu de la polysémie ou du polysystémisme. Mais les répétitions phoniques sont aussi caractéristiques des grandes œuvres en prose. On signalera, il suffit de lire Proust pour s'en rendre compte, on signalera un effet particulier de répétition-dissémination des phonèmes composant le titre d'une nouvelle, d'un roman ou d'un poème, dans les premiers paragraphes du texte en prose ou dans le poème entier. C'est ainsi que les deux premières phrases de la nouvelle de Joyce Evelyn, qui est dans Dubliners, compte un nombre de I, de V, de L et de N, dépassant très largement la répartition statistique de ces sons dans la langue anglaise, et qui se trouvent être les phonèmes composant le nom de l'héroïne éponyme de la nouvelle, Evelyn. J'exagère un peu. « She sat at the window, watching the evening invade the avenue. Her head was leaned against the window curtains, and in her nostrils was the odor of dusty croton. She was tired. » Et en fait, cette phrase, je ne donne pas les citations, mais la phrase revient deux fois à des moments stratégiques dans la nouvelle. Le même dispositif phonique figure dans le premier paragraphe du roman de Faulkner, Sanctuary, et les premières phrases du roman de Nabokov, Lolita, qui répètent à l'envi les sons qui composent le prénom de l'héroïne éponyme également, affichent une répétition on ne peut plus consciente de la part du narrateur, personnage, écrivain, Humbert Humbert. Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita, the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap at three on the teeth. Lolita. Dans les poèmes, ce principe de dissémination des phonèmes du mot-titre se rencontre assez souvent chez Baudelaire, ainsi dans le poème « À une passante », dont le titre, consonnes et voyelles, se répète tout au long du poème en séquences qui font varier le nombre des voyelles et des consonnes impliquées, ainsi que leur distance mutuelle, également l'ordre dans lequel elles apparaissent. Les sons sont plus ou moins agrégés ou plus ou moins disséminés selon les cas. Au titre de la symétrie en miroir, cette fois, on trouve parmi des répétitions par translation du type de celles que je viens de signaler, des exemples isolés de symétrie en miroir. Ainsi, par exemple, dans le premier vers du poème à une passante, que vous avez aussi sous les yeux, « La rue assourdissante autour de moi hurlait », en plus de la dissémination des lettres et des phonèmes du titre « A, U, assente », dans le premier hémistiche du vers, « La rue assourdissante », on note un effet de symétrie en miroir entre les deux premières et les deux dernières syllabes du vers, « la rue » et « hurlait ». Alors évidemment, ce n'est pas « hurla », c'est « hurlait », mais enfin, le « la » et le « lait » sont quand même très proches. Ces effets de symétrie en miroir sont parfois dits en chiasme ou chiasmique, du nom de la figure de rhétorique qui développe ce type de symétrie au niveau du vers entier. Le chiasme croise certains mots du vers ou leurs synonymes dans un schéma ABBA ou ABB'A. Il en existe une très grande variété due à des différences de détails dans la manière de le mettre en œuvre, mais il semble que ces chiasmes produisent sur le lecteur une fascination toujours renouvelée. Vous en avez un dans le dernier tercet du poème de Baudelaire, « Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais ». Et en fait, il allie une disposition chiasmique des pronoms, ce qui est intéressant parce que souvent ça porte sur les verbes et sur les substantifs, mais là, évidemment, les pronoms sont tout à fait stratégiques dans le poème. Donc, disposition chiasmique des pronoms, un parallélisme syntaxique et un rapport épistémique entre les verbes, puisque sont mis en relation des verbes qui traduisent le déplacement du corps dans l'espace, aller et fuir, et d'autres qui traduisent la connaissance, ignorer et ne pas savoir. Après la répétition, la permutation. Après la symétrie, la permutation. On trouve souvent la permutation en association avec la répétition et l'on observe des mots répétés permutés d'un vers à l'autre, d'une strophe à l'autre. Par exemple, dans le Pantoum, poème composé de quatrains à rimes croisées, dans lesquels le deuxième et le quatrième vers sont répétés et deviennent le premier et le troisième vers de la strophe suivante. Vous avez par exemple Harmonie du soir, qui est un poème très connu. Ou encore dans la Sextine, poème composé de six sixains et d'intercès. Les six mêmes mots reviennent à la rime dans tous les sixains, mais dans un ordre différent dans chaque sixain. Si vous prenez la première strophe, eh bien, le mot rime qui était en position 6 passe en position 1, celui de la position 1 passe à la position 2, position 5 en position 3, 2, 4, 4, 5, 3, 6. Vous pourrez le vérifier avec la sextine d'Arnaud Daniel que vous avez là. Et justement, si on regarde cette sextine en particulier, que Jacques Roubaud a analysée dans La fleur inverse, on note le retour dans les six strophes et on obtient le schéma suivant, et celui-là je vous l'ai noté, schéma qui met en valeur la règle qui commande le retour régulier à la rime. Donc, intra revient 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 2, 4, 5, 3, 6. Et si vous regardez les mots suivants, donc angla, arma, verga, oncle, cambra, eh bien, c'est chaque fois le même schéma, simplement pour celui qui commence, évidemment, Ongla est alors en 2, mais vous voyez, la séquence est la même, c'est-à-dire après 2, vous avez 4, 5, 3, 6, 1. Quand c'est le 3 qui commence, c'est 6, 1, 2, 4, 5. Mais chaque fois, ça revient dans le même ordre, et les mathématiciens définissent la sextine comme une permutation d'ordre 6. Ensuite, la soustraction. Qui nous vaut la figure de l'ellipse ou de l'élision. Le couplage de l'élision et de la permutation engendre d'autres figures, comme l'hypallage, par exemple, qui consiste à combiner un adjectif avec un substantif qui n'est pas le bon. C'est ainsi que dans le syntagme place assise, l'adjectif assise est à la mauvaise place en termes sémantico-syntaxiques, puisque c'est une personne qui sera assise à cette place, mais le terme de personne ne figure pas dans la phrase. La relation ensuite des contraires ou des contradictoires, A, non A, A contraire de A, et l'association des antagonistes est le fondement d'une figure comme l'oxymore. Bon, je pourrais continuer la liste, mais ça serait fastidieux, et puis ce n'est pas ça qui est intéressant, tout ça vous le savez. Car ce que je veux développer, c'est que ce qui caractérise la présence de ces nombres, figures, rapports ou opérations dans le texte littéraire, c'est qu'ils sont affectés d'un coefficient d'imprécision, d'indétermination, et ces notions ont déjà été entendues dans les communications précédentes, de flou, de vague, qui prendront la forme de l'inachèvement, de l'irrégularité, du brouillage, de la déhiscence, et que toutes ces modulations vont, au lieu de les affaiblir, comme on pourrait le penser à première vue, leur conférer au contraire des qualités sémantiques et une puissance cognitive additionnelle. Ainsi, la symétrie en art est-elle toujours imparfaite, irrégulière, toujours matinée de dissymétrie? Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à parler de brisure de symétrie. Avant d'essayer de théoriser la manière dont peuvent s'exercer ces modulations dans le texte littéraire, je pose brièvement la question de la raison d'être de ces modulations, laquelle tient essentiellement en deux termes, le sujet humain et le langage naturel. Le sujet humain parce que le texte littéraire, même s'il possède des qualités auto-organisationnelles, est la production d'un corps-esprit qui répercute dans le texte écrit non seulement des idées, des rapports abstraits déduits de son expérience de l'organisation de la nature et de la société, mais aussi des expériences de conscience et de non-conscience, sentiments, émotions, sensations, expériences musculaires, incluant d'ailleurs celle de l'articulation des phonèmes, qui donnent une valeur émotionnelle à cette autre langue dans la langue qu'est le langage littéraire. Et puis, le langage naturel, parce que ce langage qui a évolué avec l'homme n'a pas la rigueur d'un langage formel créé de toutes pièces avec des unités abstraites. Et si l'on parle du langage littéraire, système de modélisation secondaire appuyé sur le système de modélisation primaire qu'est la langue particulière à partir de laquelle il est créé, eh bien ce langage littéraire présente une complexité d'organisation plus grande que le langage pragmatique et peut rendre compte avec finesse et subtilité des ramifications de l'expérience humaine et des rapports que les hommes entretiennent avec leurs semblables et avec le monde. Dans le rapport entre physis et logos, la littérature est souvent du côté de la physis. Mais même si la littérature est maintenant secondée par l'imagerie cérébrale, son travail dans le domaine de l'étude fine des sensations et émotions reste inégalé. Comme le dit André Green dans un article sur psychanalyse et littérature, là réside le principe même de l'écriture, transformer quelque chose venu du corps désirant en une activité de liaison exclusivement formée de caractères langagiers, unis par une chaîne orientée et obéissante aux lois de la grammaticalité. J'en viens donc aux modalités de la modulation des principes mathématiques dans le texte littéraire. J'ai tout à l'heure parlé d'imprécision, d'indétermination, de flou, de vague, qui se matérialiseront dans le texte littéraire sous les traits de l'inachèvement, de l'irrégularité, du brouillage et de la déhiscence. Il faut bien voir qu'en passant de la science à l'art, on quitte le domaine de la nécessaire simplification réductionniste, de la correspondance point par point, de l'opposition de catégories clairement délimitées, de l'expérimentation censée apporter une preuve. Comme l'annonce Jean-Marc Lévy-Leblond dans le titre d'un livre de 2010, « La science n'est pas l'art », la comparaison des deux domaines est plus instructive quand elle met en valeur leurs différences plutôt que leurs ressemblances. Il s'agira donc de complexifier les relations binaires, d'introduire des gradients entre deux polarités et de préférer la variation continue deleuzienne aux oppositions conceptuelles tranchées. Les répétitions en art ne seront pas des répétitions à l'identique, mais des répétitions partielles ou des répétitions modulées au gré de l'imagination, donc théoriquement infinies. Les frontières se feront poreuses, il pourra y avoir de l'entre-deux et du tiers inclus. L'irrégularité, source de beauté pour Baudelaire, vous le savez, s'introduira constamment à côté des régularités. Elle deviendra même une modalité attendue de l'application de la règle. Le pentamètre iambique n'existe bien sûr que pour être transgressé, et un pentamètre iambique qui ne le serait pas serait absolument insupportable. L'observation d'irrégularité à tous les niveaux de l'œuvre fera donc partie de l'horizon d'attente du lecteur de textes littéraires, sans qu'il sache jamais à l'avance où exactement se produiront ces irrégularités. Toutes les composantes de l'œuvre seront envisagées dans un cycle de transformation, en sachant que le transformé de la chose sera toujours la chose elle-même et qu'il contribuera à la définir ontologiquement parlant. Un poète a élevé cette idée au rang de forme poétique, c'est Francis Ponge, dans les poèmes rassemblés dans les recueils « La rage de l'expression » ou « Le parti pris des choses ». En ce sens, la branche des mathématiques qui serait la plus proche des créations littéraires serait peut-être la topologie. Donc, premier principe, un principe de transformation généralisée que l'on peut aussi appeler conversion. Je distingue deux types de conversion, syntagmatique et paradigmatique. Par conversion syntagmatique, j'entends la manière dont un motif introduit au début d'une œuvre progresse dans cette œuvre en se transformant au fil de l'œuvre sans perdre sa valeur symbolique et ou métaphorique. J'ai eu l'occasion ailleurs d'étudier des exemples de ces conversions que j'appelle figurales, par exemple dans la nouvelle de Carver, The Blackbird Pie. J'illustrerai ici ce mode opératoire par les poèmes de Ponge que je viens de mentionner, qui en présente une sorte de cas limite, car l'enchaînement des transformations est constitutif du poème lui-même. J'en citerai deux exemples, le mimosa, dont les différentes composantes éclatées et projetées dans des univers différents donnent lieu successivement au motif suivant. Un personnage, et ça correspond à ce que vous avez, le tout petit extrait qui est dans l'exemplier, un personnage de la Commedia dell'arte, un astre, une plume jeune, entre le duvet et la plume, des poussins vus à 2 km, un parfum comparé à un chant, à une voix d'or, une note unique, persuasive, etc. Et évidemment, je n'ai pas tout noté. Et le poème n'est pas uniquement une fuite en avant de nature sémantique, c'est aussi une suite de tâtonnements formels pour produire des discours, des types de discours poétiques variés. On a donc des tentatives de poèmes en prose, des poèmes versifiés, des acrostiches, et on y revient, on les reprend, on change un mot, on en change un autre. Et de temps en temps, un excursus vers le dictionnaire pour y glaner, concernant le mimosa, des éléments qui auraient pu échapper au poète. Dans un autre poème du même type, et plus émouvant, je pense, « La mounine » ou « Note après coup sur un ciel de Provence », le poète s'engage dans une tentative forcenée pour décrire au plus juste le bleu particulier qu'avait le ciel ce matin-là, vers 9 h, dans la campagne d'Aix, au lieu-dit « Les trois pigeons » ou « La mounine ». La technique est la même que dans le mimosa, sauf que l'objet, pour frappant qu'il fût, autorité terrible des ciels, valeur très foncée, moins d'azur que de pétales de violette bleue, azur cendré, impression tragique, quasi funèbre. C'est dérobé, cet objet, c'est dérobé à peine vu, et la quête est ici plus tourmentée. Je cite, « De ce paysage, et vous l'avez sur l'exemplier, bien sûr, de ce paysage, il faut que je fasse conserve, que je le mette dans l'eau de chaud, c'est-à-dire que je l'isole, non de l'air ici, mais du temps. Il ne me faut pas l'abîmer. Il faut que je le maintienne au jour. Pour que je le maintienne, il faut d'abord que je le saisisse, que j'en lie en bouquet pouvant être tenu à la main et emporter avec moi les éléments sains, imputrescibles et vraiment essentiels, que je le comprennent. Des images sont donc invoquées tour à tour, un jour qui est valeur de nuit, un son voilé, le jour voilé par l'excès même de son éclat, un immense pétale de violette bleue qui deviendra quelques lignes plus loin pervenche et redeviendra violette, non sans s'être entre-temps multipliée au point d'exploser, azur à mine de plomb, ce gaz lourd résulte en vase clos d'une explosion de pétales de violette bleue. Ce sera ensuite un poulpe qui aurait déversé dans les cieux son cœur gros. Quel poulpe reculant dans le ciel de Provence a provoqué ce tragique ancrage de la situation ? Ou encore, la vue en plein jour d'une nuit intersidérale. Toutes les images sont formulées et reformulées un très grand nombre de fois, avec d'infimes variations que le lecteur est libre d'apprécier. Vaut-il mieux dire « ce jour bleu cendre là » ou « ce jour bleu de cendre là » ? Question de rythme en contexte et de résonance personnelle. Doit-on dire « quel poulpe reculant dans le ciel de Provence » ou « quel poulpe reculant hors du ciel de Provence » ? Question d'imaginaire. Comme dans le mimosa, l'évocation des définitions du dictionnaire et de l'étymologie vient compliquer le jeu avec le signifiant. Deuxième catégorie, conversion paradigmatique ou anagrammatique. Il s'agit là d'une conversion entre les différents niveaux de l'œuvre, thématique, narratif, diégétique, syntaxique, lexical. Le poème de Hopkins que j'ai cité précédemment en fournit un exemple. En effet, cette opposition des traits distinctifs de la tension et du relâchement que j'ai cités sont en fait homologiques des oppositions de formes rondes et longues et de mouvements, éclosions et poussées qui caractérisent le printemps. Le poème de Herrick aurait aussi pu offrir une autre série de ces conversions paradigmatiques, mais je passe, je n'ai pas le temps. Et j'en citerai, juste pour information, une troisième, c'est ce qu'on trouve dans une très courte nouvelle de Updike Pygmalion, dont j'ai publié une étude, et qui présente la caractéristique de pouvoir être interprétée comme l'application à tous les niveaux du texte, thématique, narratif, diégétique, énonciatif, syntaxique et lexical, d'une formule qui pourrait être répétition et spécularité. Et bien sûr, le thème de Pygmalion entraîne à cela, bien sûr. J'avais étudié ce texte donc, comme étant, pour le texte littéraire, un possible équivalent de l'engendrement d'un ensemble de Mandelbrot. On pourra en reparler dans la discussion. Cette conversion multiplanaire peut aussi inclure comme un paramètre supplémentaire les langues multiples que parle l'écrivain. On parlait de Nabokov ce matin. Eh bien, Nabokov, comme Elias Canetti, font partie de ces écrivains qui font résonner dans leur langue poétique d'autres langues, comme ils le font d'ailleurs pour les œuvres poétiques d'autres auteurs. Le deuxième principe serait celui de la déliaison en vue d'une liaison nouvelle. Il s'agit ici de délier ce que la langue lit de façon conventionnelle ou ce que les œuvres poétiques précédentes ont lié à leur façon. J'en donnerai trois exemples. Tout d'abord, l'usage du parallélisme, qui signe une forme de répétition partielle, assez nette pour être remarquée, mais assez floue pour faire travailler de manière créative l'imaginaire du lecteur. Nicolas Ruvette signale dans un article intitulé « Parallélisme et déviation en poésie » plusieurs cas intéressants. L'un est posé par le poème de Villon, « Ballade des dames du temps jadis », qui, au lieu de proposer une réponse aux questions posées à propos des dames, Flora, Héloïs, la reine blanche et les autres, pose à la fin de chaque strophe la même autre question qui, a priori, n'a rien à voir avec la précédente. Mais où sont les neiges d'antan ? Pardon, j'ai oublié le muet. Mais où sont les neiges d'antan ? Et Ruvette montre comment, je cite, « devant la défaillance d'un déroulement normal du discours, le lecteur est ramené à l'élément le plus visible qui est mis en parallèle syntaxique. Il y a alors contamination des sujets des deux questions, les dames et les neiges. Et c'est en convoquant pêle-mêle les associations tout à la fois mythiques et personnelles des dames et des neiges et en les projetant les unes sur les autres que le lecteur tisse des réponses nulle part exprimées dans le texte et ce faisant s'approprie le poème de Villon. Deuxième exemple, la déliaison syntaxico-sémantique introduite par le fait de changer la préposition usuelle et donc attendue dans une expression courante. C'est ainsi que Laurent Génie analyse dans le premier chapitre de La parole singulière l'expression « l'ascension d'une terrasse en printemps ». et il en fait l'emblème de l'événement figural dont l'étude est au cœur de son livre. On connaît l'expression « au printemps », mais ce qu'on lit, c'est « en printemps ». On troque ainsi la dimension temporelle pour celle de la manière. L'ascension d'une terrasse en printemps devient non plus une référence à se représenter, mais un événement à concevoir. Toute une aventure. 5 minutes. Oui, c'est bon. Je vais sauter. J'avais ensuite un autre exemple qui est le titre. On y reviendra éventuellement dans la discussion. En plus, c'est plus simple. C'est un exemple, c'est le titre d'un des recueils de la nouvelliste américaine Grace Paley. Elle a appelé son recueil « Men and Women at Love ». Et il y a bien sûr tout un jeu sur la substitution du « at » au « in ». Et c'est intéressant parce que dans la langue anglaise, on dit « to be in love », mais on dit « to be at work », « to be at home ». Donc il y a un côté statique, si vous voulez. Et puis il y a aussi le fait que la préposition « at » peut avoir une valeur agressive. On lance une balle « to somebody », mais quand on la lance « at somebody », là, il y a une intention beaucoup moins pacifique. Donc, si vous voulez, cette substitution a des effets. Mais je dirais qu'elle est plus simple que la substitution du en au o dans l'exemple de génie, parce qu'une fois qu'on l'a déchiffré, on a le sens et on peut s'arrêter là. Alors que je crois qu'en printemps, eh bien, il est difficile, je crois, de clarifier une fois pour toutes le sens que l'on peut induire en printemps. Et le troisième exemple que je présenterai est un exemple historique spectaculaire, le corne ou la rime non reliée de la poésie des troubadours, dont le rôle révolutionnaire introduit dans l'écriture est célébré par Dante dans le Convivio et qui se trouve aussi longuement analysé par Agamben dans un texte qui est inclus dans le livre « La fin du poème ». En fait, Agamben commence par rappeler que les Minnesänger appelaient corne un vers dépareillé à l'intérieur de la strophe, mais qui rime avec le membre correspondant des strophes suivantes. C'est la rime partiellement reliée que les Provençaux appelaient rime estrampe ou dissolute, et que Dante appelle clavis, c'est-à-dire le clou qui pour lui marque un type de liaison ouverte par opposition au nœud qui marque une liaison fermée. Alors, corne signifie étymologiquement le bout, l'extrémité. Et de même que le vers tire son nom de l'endroit où il se retourne, corps désigne à la fois le vers et la partie finale d'un vers qui porte la rime non reliée. Alors c'est le point de rupture de la construction métrique de la strophe. La rime non reliée est au centre de la technique du poète Arnaud Daniel, qui en fait va traiter tous les vers comme des cornes en quelque sorte. Et la sextine va sortir de là. Donc l'idée c'est évidemment que les rimes non reliées se combinent les unes avec les autres, mais sur un plan métastrophique. C'est-à-dire, ce qui ne se passe pas à l'intérieur de la strophe va se passer en fait au sein du poème, donc à un niveau métastrophique. Et cette crise du vers est en fait aussi une crise de l'émancipation du texte poétique, non seulement par rapport au chant, mais par rapport à toute oralisation. Il y a donc par étapes une rupture de la connexion entre le chant et l'écrit qui passe par la déconnexion entre unité mélodique et unité métrique et unité métrique et unité sémantique. Le corps de la poésie apparaît donc parcouru d'une double tension, celle qui écarte et rapproche le son et le sens. Alors, troisième point, c'est bon, je suis au bout, la création de degrés intermédiaires associés par Peirce à sa théorie du vague. Dans son livre « Peirce et la signification », Christiane Chauviré nous dit que la logique du vague de Peirce serait prise dans ce jeu de miroir où, de façon toute métaphysique, les triades s'entre-expriment et se renvoient les unes aux autres de façon systématique et non rhapsodique. Et je cite Peirce, « Il y a des cas où nous pouvons avoir une idée apparemment définie d'une frontière entre l'affirmation et la négation. Ainsi, un point d'une surface peut être situé dans une région de cette surface ou lui être extérieur ou être sur sa limite. Cela nous donne une conception indirecte et vague d'un intermédiaire entre l'affirmation et la négation en général et par conséquent un état intermédiaire ou naissant entre la détermination et l'indétermination. » Et Christiane Chauviré ajoute dans une note Le point important ici est l'idée d'une série sans fin d'intermédiaires, et même d'intermédiaires à l'état naissant, en devenir, entre le vague et le général, l'affirmation et la négation, la disjonction et la conjonction, le possible et le nécessaire. L'idée d'intermédiaire toujours recommencé, bref, d'une essentielle continuité entre détermination et indétermination. Et c'est en définitive avec le concept persien de continu que la logique du vague semble devoir trouver sa vérité. Cette idée persienne me paraît parfaitement exprimer ce que fait en permanence la littérature, à la fois dans sa dimension linguistique, puisqu'elle travaille sans répit à ouvrir dans la langue des possibles structurels, et aussi sur le plan phénoménologique, puisque, comme l'a analysé Jean-Claude Coquet, à partir de textes de Proust, la littérature ouvre aussi de nouveaux questionnements ontologiques, épistémologiques, éthiques, lesquels lui ont d'ailleurs même valu un intérêt récemment déclaré de la part des spécialistes de philosophie morale, Martha Nussbaum par exemple. Ceci étant, Peirce, logicien qui a souvent rapproché les mathématiques et l'art, en particulier dans ses raisonnements sur une variété de signes sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, le diagramme, aurait peut-être suggéré que sur cette question de l'ouverture d'états intermédiaires, l'art et la science puissent se retrouver, puisqu'il s'agit d'un exercice de la pensée qu'avec des moyens différents, elles pratiquent aussi bien l'une que l'autre. Ne pas se satisfaire de ce qui est, mais creuser toujours plus avant dans les ramifications des choses et des lois. Je vous remercie.